Cher bien-aimé, nous allons aujourd'hui parler du nouveau sens de l'histoire. Les premières générations de chrétiens attendaient la fin imminente du monde, le retour de Jésus-Christ avec puissance et gloire. Au deuxième et au troisième siècle, par exemple, un groupe de chrétiens charismatiques connu sous le nom des montanistes, a présenté une série de prophéties concernant la date et les lieux du retour de Christ. Ils ont exhorté les chrétiens à se séparer du monde et de vivre d'une manière ascétique en anticipation du dénouement apocalyptique de l'histoire. Au fil du temps, cette ferveur apocalyptique commença à diminuer. Bien que les chrétiens professaient toujours leur foi en la seconde venue de Christ, ils ne l'attendaient plus avec urgence comme dans le passé. Ce n'est pas un hasard si la première véritable histoire de l'Église chrétienne a été écrite au IVe siècle par Eusèbe, un évêque de la Palestine. Eusèbe a également écrit la biographie officielle de Constantin dans laquelle il se référait à lui comme le 13e apôtre, le visage du nouvel Israël de Dieu. Pendant son règne, les chrétiens commencèrent à ériger des grands temples. L'architecture de l'Église est née lorsque les chrétiens sont passés de la célébration du culte dans des grottes et des catacombes à la célébration du culte dans des beaux temples et basiliques. La mère de Constantine, Helena, était influente dans le développement de cette architecture sacrée. Par exemple, elle avait supervisé elle-même la construction des temples et sur les sites présumés de la naissance du Christ à Bethléem et de sa mort à Jérusalem. En 333, nous lisons que des pèlerins de Bordeaux visitaient la Terre Sainte comme un acte de dévotion religieuse. Les visites guidées de la Terre Sainte étaient devenues un secteur prospère et l'est resté jusqu'à ce jour. Une nouvelle forme de spiritualité. Quand l'Église était persécutée, ceux et celles qui mouraient comme martyrs étaient considérés comme des grands saints. Mais maintenant que le christianisme était devenu la religion d'État et qu'il souffrait de laxisme moral, une nouvelle forme de martyr s'est développée, c'était le monachisme. Saint Antoine est considéré comme le père du monachisme. Un jour, à l'âge de 18 ans, quand il entrait dans une église, il écouta la lecture des paroles suivantes de Jésus : « Si vous voulez être parfait, allez vendre tout ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, venez et suivez-moi. » Luc 18, 22. Immédiatement, il sortit, obéissant littéralement aux paroles qu'il venait d'entendre. Il vendit toutes ses possessions, les donna aux pauvres et se retira dans le désert d'Égypte où il vécut seul dans des tombeaux, livrant bataille contre les forces des ténèbres. Finalement, des milliers d'autres chrétiens suivirent Antoine dans sa retraite monastique. Les moines étaient les successeurs des martyrs. Ils représentaient une nouvelle forme de la milice du Christ, combattant contre l'influence négative du monde, de la chair et du diable. En Syrie, une forme unique de la vie de vie monastique s'était développée autour des leaders chrétiens considérés comme des saints, dont le plus célèbre était Siméon Stylite, comme on dit, mort en 459 après Jésus. Il construisit un pilier de pierre d'environ 70 mètres de hauteur sur lequel il menait une vie de prière ascétique pendant plus de 30 ans. Sa nourriture quotidienne lui était hussée par un groupe de fidèles qui campaient au pied de son édifice en pierre. Une forme plus simple du monachisme était plus tard développée par Pacôme et Basile le Grand. C'était le monachisme cénobique, comme on dit, de l'expression grecque koinos bios, qui signifie vie commune. Le monachisme cénobique mettait l'accent sur la vie en communauté. Il encourageait la prière communautaire, le travail manuel et l'obéissance à l'abbé ou le chef de la communauté. La règle de Basile est devenue le manuel standard pour le monachisme cénobique en Orient, la forme du monachisme qui a été la plus pratiquée plutôt dans l'Église pendant cette période. Le monachisme exerçait une forte influence sur la dévotion chrétienne. Ce n'est pas par hasard que saint Augustin, le plus grand de tous les pères de l'Église, fut profondément ému et attiré vers la vie monastique après sa lecture de la biographie de saint Antoine.